Donc je crois que c'est bon, vous entendez bien ? Eh bien écoutez, merci d'être là cette fin d'après-midi, cette belle fin d'après-midi à Saint-Malo. Notre plateau est maintenant complet. Donc je vais commencer, je ne vais pas faire honneur aux dames, il se trouve que c'est une dame d'abord, Nina Allan, donc, qui est là pour deux de ses livres, qui est... je vais les montrer s'il vous plaît. Voilà. Donc, Spin d'abord, et Stardust, et demain, ceux qui voudront retrouver Nina Allan, nous parlerons également, puisés dans le reste de son œuvre, de complications. Voilà, donc Nina Allan, grand auteur anglo-saxon, plusieurs fois primé, prix de l'imaginaire, plusieurs awards. Donc elle va nous parler d'un monde très complexe, d'un monde où se côtoient H.G. Wells, des araignées, des montreux et bien d'autres choses encore, sans oublier des échos de la mythologie grecque. Notre sujet s'appelle... se tourner autour de l'Angleterre, hein, puisqu'il avait au départ pour sujet thé, muffins et fantasy. On ira aussi vers des pâtisseries moins anglaises, je pense, hein, grâce à vous. Ensuite, nous avons Fabrice Bourland pour Hollywood Monsters. Bien sûr, Hollywood, je ne vais pas raconter que c'est en Angleterre, mais il y a quand même une filiation qui est... Voilà, on va rattacher ça parce qu'on croise, sinon physiquement, du moins dans l'inspiration, des gens qui sont extrêmement britanniques. Edith, alors là, c'est directement la belle littérature d'enfance. Enfin, je le dis comme repère, mais je n'aime pas du tout ce genre de classification. On le disait tout à l'heure, littérature enfance, jeunesse et adulte, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Mais elle, c'est encore autre chose, c'est la transposition d'une œuvre, d'une de ses œuvres marquantes, je crois, que l'imaginaire... qu'on reçoit dans nos imaginaires quand on est très jeune, et pour Edith ça a été une empreinte beaucoup plus forte je pense que chez la plupart d'entre nous, d'autant plus qu'elle est liée à un talent de dessinatrice que nous n'avons certainement pas tous. Et enfin Eric Senabre qui m'a beaucoup surpris parce qu'il traite un sujet dont on n'a pas tellement l'habitude. On a tous été élevés, ceux qui ont été élevés aux antiquités classiques ont toujours eu droit à Rome la magnifique et à l'affreuse Carthage qui voulait perpétuellement nuire Rome, et là les rôles sont un petit peu inversés, et moi je sais que personnellement ça m'a bien vengé de qui était... Donc on va peut-être commencer par vous et par Elissa de Carthage. Donc je vous montre l'ouvrage que je recommande vivement, une lecture très très allègre, très rapide, un livre, voilà, les Anglais disent page turner je crois, c'est-à-dire qu'on tourne les pages à toute vitesse pour savoir la suite. Un très très beau personnage féminin, ça il faut le souligner quand même aussi, ça fait plaisir. Et puis cette découverte de cette Carthage qu'on n'imagine pas, sinon comme la chose qu'il faut détruire, et puis un tas de sel qui reste sur une plage. Donc je voulais savoir justement pourquoi vous étiez allé vers Carthage.
En réalité, ma passion, ce n'était pas une passion pour Carthage, c'était bel et bien une passion pour Rome au départ. Une passion sur laquelle on peut s'interroger. Parfois, je me dis pourquoi est-ce que j'admire tellement ces gens qui, finalement, sont entrés dans l'histoire parce qu'ils étaient, les Romains donc, parce qu'ils étaient particulièrement pugnaces, parce qu'ils ont conquis des tas de pays. Et conquis la moitié du monde connu. Donc, au départ, mon admiration venait plutôt des Romains, mais en faisant mes recherches, en écrivant, je me suis aperçu que j'avais des difficultés finalement à leur donner le bon rôle. Et assez naturellement, je ne dirais pas que les rôles se sont inversés, mais en réalité, ils se sont beaucoup plus équilibrés. C'est-à-dire que je me suis aperçu que les uns et les autres avaient des bonnes raisons de s'en vouloir, mais que les Carthaginois avaient quand même d'excellentes raisons d'être méfiants et de se sentir humiliés par ce que Rome leur avait fait.
Agressés et humiliés.
Oui. Il y a très peu de thé et très peu de muffins dans ce roman historique, mais
le thé, on aurait pu.
Le thé, on aurait pu, parce qu'on devait déjà en consommer dans un pays qui est évoqué dans le roman. Mais sans faire de publicité tapageuse pour l'ensemble de mon œuvre, l'Angleterre est très présente dans la trilogie que j'avais écrite précédemment, qui s'appelle Sublutetia, et notamment dans le dernier tome, qui, elle, est pour le coup complètement imprégné de mon amour pour les auteurs classiques, les auteurs d'imaginaire classique anglais. Et ça sera a fortiori le cas avec le roman qui va suivre Elissa de Carthage, qui qui prend place dans l'Angleterre du tout début du XXe siècle.
Donc on est quand même bien, on est bien encadré. Oui. Et ça m'a quand même beaucoup surpris, parce que du coup, vous nous redonnez une toute autre image. Alors moi, je suis comme vous, je fais partie des gens qui ont dit « Oh, la Grèce, c'est quand même mieux que Rome ». Et j'ai toujours eu cette faiblesse de trouver Rome largement aussi bien que la Grèce, malgré ses... je crois que cette dimension d'empire aussi, cette dimension dont on retrouve partout ce modèle, et je crois qu'on rejoint, après je passerai aux autres, mais je trouve que vous parliez de l'Angleterre du début du siècle et même de l'Angleterre du siècle précédent, il y a quand même en permanence dans l'Empire anglais une nostalgie totale de l'Empire romain.
Oui, et pourtant je ne suis pas un horrible colonialiste, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant sur ces petits pays finalement, en Rome encore plus petit que l'Angleterre pour le coup, qui ont réussi à étendre leur emprise sur le monde, en fait, les Romains sur le monde connu, et l'Angleterre sur le monde tout court pour le coup. Et voilà, je pense que c'est peut-être c'est l'admiration pour les petits qui arrivent à faire des grandes choses.
Je vous dis, je vais passer à la suite, mais je ne résiste pas à une citation qui m'a toujours enchantée. Quand on lit Puck, lutin de la colline, mm-hmm. Kipling, tout le début, il y a ces soldats qui sont sur le mur d'Adrien dans la nuit froide, qui sont, ce sont des Romains, ils sont de Grande-Bretagne, mais ils sont du sud de l'île, et là-haut, c'est quand même le pays des sauvages. Oui. Et on demande à Kipling, voilà, les Picts sont là aux portes, les barbares du Nord arrivent par le côté, et on demande à Kipling, mais comment avez-vous si bien pu décrire la mentalité, l'état d'esprit de ces jeunes soldats romains? Il dit, c'est très simple, je me suis inspiré des jeunes officiers anglais sur la Khyber Pass, au temps de l'Empire indien. Donc on reste quand même dans nos thé muffins et fantasy, enfin, et fantastique. Donc encore là je vais changer carrément de monde et je vais passer à Edith, parce que là on entre dans la grande force de ces romans d'enfance, de jeunesse, de ces romans, et tout particulièrement ce thème du jardin perdu, du jardin retrouvé, du jardin idyllique, du jardin où tout devient heureux, et du jardin qui n'existe ou qui n'existe pas. Et puis on va retrouver un thème d'ailleurs cher à Nina tout à l'heure, l'horloge.
Oui, alors le jardin, c'est vrai que c'est assez classique, même la manière d'y entrer par une porte qui est la frontière entre le monde réel et un monde imaginaire. Sauf que peut-être l'originalité de cette histoire, c'est que Philippa Pierce nous fait rentrer non pas dans un rêve et non pas dans un monde onirique, mais dans les souvenirs de quelqu'un. Et je crois que c'est là où ce roman bascule sur quelque chose qui, moi, m'a touchée énormément, parce que ce n'est pas seulement un roman merveilleux, c'est un roman merveilleux et fantastique.
Oui. Et comment avez-vous, parce que ça ne doit pas être si simple que ça, d'adapter un livre comme celui de Philippa Pierce?
En fait, c'est assez intuitif, parce que il se trouve que ce livre, moi, je l'ai lu à l'âge adulte, pas du tout enfant. Hein, je me rappelle plus qui m'a le passé. C'était un livre qui m'a beaucoup marqué. Et au moment où je l'ai relu plusieurs fois, je le connais vraiment par cœur. Et au moment de l'adapter, finalement, je savais déjà ce que j'avais envie de transmettre de ma lecture. Je savais déjà ce que j'avais envie de dessiner, parce que c'est très important aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'adaptation, l'écriture, mais il y a aussi toutes les images que j'ai eues durant mes lectures et que j'avais envie de transcrire. Et voilà. Et donc, mais tout ça est assez, enfin même très intuitif, parce que je n'ai pas une intention au départ qui dépasse celle de ma propre motivation, mon propre plaisir.
Ressenti, votre propre ressenti aussi, oui.
Tout à fait.
En tout cas, si on va peut-être l'ouvrir pour les premiers rangs au moins, c'est le, il y a vraiment un travail très très beau de couleur, d'adéquation de la couleur aux différents moments, puisqu'il y a la bascule entre le monde réel qui est particulièrement désespérant quand même. Le monde du petit homme n'est pas celui où il tombe là, en tout cas, n'est pas...
Et puis les pages du jardin qui, elles, sont beaucoup plus colorées. Et puis dès qu'on revient à l'intérieur chez l'oncle et la tante, je cherche une page un peu plus désaturée pour montrer.
Tout à fait, à la fin,
voilà,
je crois qu'on
voilà, c'est des couleurs assez, sinon désaturées, en tout cas assez basiques. Et effectivement, après, c'est au moment de rentrer dans le jardin qu'on retrouve des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus lumineuses. Donc ça, c'est un système de narration qui permet aussi... Enfin, c'est pas que j'ai envie de mâcher le travail, mais c'est pour dire que pour moi, il y avait vraiment l'idée qu'on intègre tout de suite la dualité de la vie de Tom chez son oncle et sa tante dans les années 50. Donc, obligé de rester dans l'appartement où il n'y a rien, il n'y a pas un jouet, c'est d'une tristesse pas possible. Et finalement, les séquences dans le jardin où là, je veux dire, elle se retrouve dans un monde, elle se retrouve à explorer un monde extraordinaire. Donc voilà, j'ai voulu marquer ça en me disant, voilà, une fois que c'est placé, c'est dit, après on est libre de s'y promener sans idée d'aller faire comprendre cette dualité-là, elle est tout de suite placée très clairement.
Non, ça c'est vrai que c'est très appréciable. En plus, je crois que tout récit a une couleur. En tant que lecteur, on sait bien que tout moment de la lecture... On la traduit aussi instinctivement par des couleurs, et là vous l'avez fait pour nous.
Oui, mais en plus, c'est vrai qu'il y avait dans l'intention, il y avait aussi... moi, je me faisais un grand, grand plaisir de dessiner le jardin. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait de plan du jardin, c'est-à-dire que je l'ai dessiné au fur et à mesure. Et du coup, je découvrais graphiquement le jardin en même temps que Tom, le héros. Et je me suis dit, ce jardin ne doit pas avoir de limite, il est infini, et il n'a pas de plan, c'est-à-dire que finalement, c'est l'exploration qui le crée. Et voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé les images du jardin.
Fabrice, donc à vous maintenant. Alors, vous avez donc créé deux héros au nom tout à fait remarquable, Trelawney et Singleton. D'ailleurs, un nom de coureur des mers et un nom de whisky, c'est quand même a priori plutôt sympathique. On ne peut qu'applaudir une initiative pareille.
Je connaissais pas le whisky, maman, j'ai créé les personnages.
Ah, c'est venu après ?
Oui.
Ah, ben alors là, c'est une belle intuition. Je crois qu'on a des petits soucis de micro, mais on s'en arrange.
C'est bon, c'est bon.
Merci. Donc vos détectives se retrouvent donc à Hollywood, aux États-Unis, dans l'espoir de passer un moment tranquille. On sait bien que quand des détectives passent un moment tranquille, ça se passe toujours très très mal pour eux et encore plus autour d'eux. Et là, on croit basculer dans le fantastique pur parce qu'ils aperçoivent ce qui semble être ce qui est le plus proche d'un loup-garou ou d'un monstre du même type.
Voilà. Juste pour situer ce volume-là dans la série, parce que c'est donc une série en grand détective chez 18 et qui a la particularité de mêler le polar historique, puisque ça se passe dans les années 30 en Europe et aux États-Unis pour celui-ci, et que ça mélange le polar historique avec le fantastique. Et que celui-ci, c'est peut-être celui dans la série qui est le moins fantastique, puisque le loup-garou en question va s'avérer, enfin je ne révèle pas un grand mystère en expliquant que ce n'est pas tout à fait un loup-garou. Et donc c'est presque celui de la série...
Qui est le plus scientifique.
Qui est le plus scientifique, qui est moins fantastique, en tout cas, jusqu'à une...
Au premier degré, parce que tout l'environnement, quand même, de l'époque que vous décrivez, et bien sûr, on sait que c'est historique, mais en même temps, on bascule dans une espèce de folie humaine qui est celle des irradiations, qui est celle des monstres, qui est celle d'un eugénisme appuyé. C'est des choses qu'on ne trouve pas si facilement et toutes ensemble.
Non.
Alors, plus le spiritualisme autour de Madame Blavatsky, il y a quand même beaucoup de choses qui sont du fantastique.
Alors, pour situer un peu le bouquin, le personnage principal, Singleton, est canadien, né à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Son acolyte, Trelawney, est américain, né à Boston. Et en 1932, ils font le voyage inverse de celui qu'on faisait à l'époque. Ils vont des États-Unis vers l'Europe, vers le vieux continent, parce qu'ils sont amoureux de la littérature victorienne, des grands romans, Stevenson, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, le Dracula de Bram Stoker, etc., etc. Et ils veulent retrouver sur le territoire du vieux continent cette ambiance littéraire dont ils sont fanatiques. Et ça tombe bien parce que dès leur première enquête, ils vont être sollicités par la veuve d'Arthur Conan Doyle pour mener une enquête qui va donc en fait être dans une ambiance très victorienne, même si ça se passe en 1932. Et après, volume après volume, on va passer à Paris en 34, 36, 37 de nouveau à Londres et 38 à Hollywood, parce que étant originaire du continent nord-américain, à un moment, il était un peu, c'était un passage obligé pour moi de revenir sur leur continent pour un peu leur confronter avec le fantastique américain. Et quand j'ai commencé à me documenter sur le fantastique américain, enfin, j'ai pas eu besoin de me documenter parce que j'étais plutôt aficionado du genre, mais il y avait forcément un territoire qu'il fallait qu'il visite, c'était le Hollywood des années 30, parce que c'est vraiment le moment où sur les écrans de cinéma vont apparaître tous les grands classiques, Dracula de Todd Browning, Frankenstein de James Whale, et
Freaks.
Ce film qui sert un peu de fil rouge à mon ouvrage, qui est Freaks. Partant d'un constat très simple, c'est qu'au moment où au cinéma les grands monstres cinématographiques apparaissent, qui ont un succès indéniable et qui vont comme ça générer des suites sans arrêt jusqu'à la fin des années 40, il y a un film qui s'appelle Freaks, qui met en scène des monstres humains, donc qui n'est pas proprement un film fantastique, mais qui va terroriser les États-Unis, tant et si bien que les gens vont quitter la salle avant que le film soit arrivé au bout. Et qui va être déprogrammé très vite.
Parce que là, ce sont des vrais.
Parce que ce sont des vrais monstres. Ça se passe dans une foire ambulante, dans un cirque, avec des sorciamoises, des hommes troncs, etc., etc. Avec une scène finale qui est absolument hallucinante pour ceux qui ont vu le film et qui est proprement terrorisante, bien que le film ne soit pas fantastique. Et donc, c'est le ferment du bouquin. C'est-à-dire qu'au moment où ces monstres de cinéma commencent à apparaître, il y a des monstres humains. Alors, tout ça jumelé à un sujet qui est extrêmement sensible aux États-Unis à l'époque, qui est l'eugénisme, puisque on le sait pas beaucoup, mais les Américains sont ceux qui ont promu l'eugénisme de la manière la plus radicale. Et les nazis, quand ils sont arrivés au pouvoir et qu'ils ont instauré leur fameux plan T4 dans les années 40-41, n'ont fait qu'adapter la politique californienne d'eugénisme, qui était en gros, à partir du moment où quelqu'un était mal formé, il fallait absolument éviter la dégénérescence de l'espèce humaine et faire en sorte qu'il ne puisse pas se reproduire. Donc les Californiens stérilisés, les nazis ont été beaucoup plus loin.
Un peu plus loin, voilà, oui.
Mais en tout cas, ils ont appliqué en fait ce programme californien,
ce nettoyage
qui a
de
fait
la
quand
race,
même en sorte que entre 1909, qui est le moment où la loi est passée, et 1938, on en était quand même à plusieurs milliers de stérilisations en Californie, rien qu'en Californie.
Ce qui n'est quand même pas mince. Je voulais vous demander à tous les deux le temps ou la partie de vos recherches historiques.
En ce qui me concerne, elle a été considérable parce que même si l'Antiquité est une période qui me passionne, je ne suis pas historien. Je n'ai pas forcément très bien la mémoire des dates, du reste. Et à vrai dire, la période que je connais le mieux, c'était la fin de la République, début de l'Empire. Donc, pas du tout cette tranche-là. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, peut-être davantage pour me rassurer que pour en mettre vraiment dans le livre. Sachant que j'avais besoin d'un garde-fou historique. J'avais toujours l'angoisse qu'un historien vienne me chercher des poux.
Il y en aura peut-être un, mais bon.
Donc oui, j'ai passé quand même, je pense, peut-être 3 mois d'écriture et 9 mois de recherche.
Mais je pense, comme lecteur, et pour écrire un petit peu, que ça sert toujours. Ça sert à un mot, ça sert à un adjectif.
Mais parfois,
et ça sert toujours, ce qu'on fait là.
Parfois, ça a été une demi-journée de recherche ou plusieurs jours pour quelque chose qui va faire une ligne.
C'est ça. Mais c'est aussi ce qui rend le livre solide.
l'héroïne hérite un moment et oui. Je me suis dit, mais elle hérite de quoi? Au fait, ce qu'elles héritaient, les femmes à cette époque, elles héritaient comment? Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'elle, c'est une esclave qui a été affranchie et qui a épousé son maître. Comment ça se passe dans ces cas-là? Et je trouvais l'information nulle part. Donc j'ai contacté deux universitaires, deux femmes qui ont écrit un livre, oui, sur la femme dans la Rome antique et qui sont spécialistes de droit romain. Et elles m'ont répondu dans un premier temps, bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée, ben, on ne sait pas, on va chercher, on viendra vers vous.
Quand on aura fini notre thèse, dans 10 ans, vous finirez le roman.
Donc bon, j'ai plus ou moins botté en touche, bon, ça, voilà.
Et je pense que pour vous...
Oui, de la même façon, plusieurs mois de recherche. Alors pareil, je ne suis pas historien, donc c'est vraiment une plongée dans... C'est plus une plongée pour essayer de m'immerger totalement dans l'époque, dans la vie quotidienne des gens, sur l'eugénisme, déjà, oui, trouver les documents, parce que c'est pas évident.
C'est parce que vous avez plusieurs points, il faut
quand, voilà, même chercher des choses. Voilà, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, donc varier, il faut, quoi, connaître toutes ces thématiques-là. Et puis par contre, le grand moment, c'est un petit peu ce que tu racontes, c'est qu'il faut liquider tout ça, il faut mettre, voilà, il faut beaucoup se documenter, mais après il faut liquider tout ça, parce qu'il n'est absolument pas question de tartiner des pages et des, non, pages pour dire, voilà, vous savez, j'ai passé des mois à me documenter, je veux que vous le lisiez.
Et vous êtes tout, je vais tout mettre.
Voilà, je veux rentabiliser le truc.
Je vais tout,
donc,
mettre,
à la, oui, limite, il y a des tonnes de livres que j'ai lus dont il est à peine fait référence, oui, ou même qui n'apparaissent pas. Mais en tout cas, c'est important que moi, auteur, je sache de quoi je parle et que j'ai l'impression d'évoluer dans ces années-là comme si j'étais un contemporain et que, voilà, c'est plus une mise en condition de l'auteur qu'un matériau brut qui va être utilisé. D'ailleurs, la plupart du temps, j'utilise 5-6%, oui, de ce que j'ai emmagasiné.
Avant de passer à Nina, juste la même chose pour vous, Edith, parce que vous êtes dans les souvenirs de quelqu'un. Donc vous avez deux périodes passées, une un peu passée et une beaucoup plus. Vous avez une recherche particulière?
En fait, j'ai déjà travaillé sur des albums qui se passaient en Angleterre à la fin du 19e siècle. Donc j'avais quand même déjà abordé, mais en fait, c'était pas tellement nécessaire, enfin, mis à part effectivement la documentation très précise sur les lieux, sur la maison, parce qu'il fallait que l'époque soit vraiment,
oui, qu'est-ce qu'il y a dans une cuisine,
voilà,
qu'est-ce qu'il y a
là,
voilà, oui.
Mais après ça, je me dis toujours que finalement, quelle que soit l'époque, par exemple, par rapport au costume, par rapport au... Je me dis, les deux enfants, enfin, surtout Hattie, puisqu'elle, oui, est au 19e, enfin, à la fin du 19e, je me dis, c'est une enfant, même si les modes de vie, les conditions de vie, les modes d'éducation étaient très différents, ça reste un enfant.
C'est-à-dire
dans
un jardin, oui.
Je voulais à tout prix éviter de faire, d'animer une gravure de mode. Je voulais qu'on ait l'impression que finalement ces deux enfants pouvaient très bien se rencontrer aujourd'hui. Mais effectivement, il y a c'est pas un décorum, mais il y a effectivement des éléments qui permettent de nous immerger dans l'époque dont le roman parle. Mais je m'attache pas à retranscrire de manière, trop précise les choses, parce que j'ai envie qu'on garde une certaine réalité et qu'on n'ait pas cette distance avec l'imagerie que chacun peut avoir. Et pourtant, je m'en sers quand même. C'est assez spécial, puisque je me sers aussi quand même de certains clichés, pas seulement sur cet album-là, mais sur les précédents qui pouvaient se passer aussi à peu près à la même époque. Et je me sers aussi des clichés pour raccourcir, c'est-à-dire tout de suite mettre les lecteurs dans l'ambiance d'une époque. Mais à un moment donné, c'est un subtil arrangement de ma part avec finalement l'imagerie traditionnelle qui est attachée, les clichés qui sont attachés à une époque comme la fin du 19e siècle, oui, victorien, et enfin du siècle anglais, et finalement le fait de quand même vouloir bien rattacher l'histoire à l'époque dont je parle, quoi. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, parce que pareil, c'est aussi il y a une partie d'intuition aussi quand je fais ça.
Alors je vais bien sûr maintenant passer à Nina, que j'ai laissé attendre un petit peu, et je la demande de m'en excuser. Mais alors là, on va se retrouver avec tout. En fait, dans ces romans ou dans ces livres, moi j'ai été frappée, j'en parlerai peut-être plus dans Complications, par tous ces fils dont on trouve des morceaux qu'on va rattacher, mais qui vont se rattacher extrêmement subtilement à travers le temps, l'espace. Là, on va rattacher quand même les livres de Nina à la présence des autres auteurs. Donc, pour l'Angleterre, bien sûr. On va peut-être quand même voir Edith. Mais je pensais pour le cinéma, évidemment, il y a Stardust. Et Spin, on retrouve quand même, non pas la mythologie latine, mais la mythologie grecque. Donc notre plateau n'est pas du tout aussi disparate qu'on pourrait le croire. Il y a des lignes de force. Maintenant, j'ai été très, très, très étonnée. J'avoue que je suis tout à fait admirative par la construction des livres de Nina et par la façon dont on se retrouve alors qu'on se pense vraiment perdu. Dans Stardust, évidemment, il y a le cœur de l'ouvrage qui est un vide, qui est un creux. Et je voulais savoir pourquoi elle était allée vers ça.
The void, I suppose you're talking about, is the person of Ruby Castle.
Ruby Castle, yes.
Yes. The subtitle of the book, Stardust, is the Ruby Castle stories. And yet, as Claudine has said, Ruby Castle is the one character you never get to meet.
Donc, je pense que ce à quoi vous faites allusion, en fait, c'est le sous-titre du livre qui est l'histoire de Ruby Castle. Mais Ruby Castle, c'est ce vide, en fait, parce qu'on ne la rencontre jamais dans le livre. On parle d'elle, mais elle est toujours absente, en fait.
I think what she is, in a way, is a sort of personification of the idea of fantasy.
Ruby Castle est la personnification de l'idée de la fantaisie.
We don't meet Ruby except very briefly in one of the stories. You meet her as a young woman. But other than that, you always see her through the eyes of other people in the stories and the impact that this figure, this almost mythological figure, has upon other people.
Et alors on ne la rencontre que très brièvement dans une des nouvelles, mais autrement on ne la voit que par la description qu'en font les autres qui l'ont connue, qui l'ont rencontrée. Donc c'est avec un certain recul et c'est vraiment le lien en fait entre les nouvelles.
And you were just talking about Hollywood monsters. Ruby Castle is in a way, she is a Hollywood icon. She is not a monster herself, but she stars in horror movies, and she does commit in her real life a monstrous act. And these kind of extreme characteristics in this woman have an uplifting or an inspirational effect on everybody who comes into contact with her, either in reality or through the character she portrays in her films.
Donc on parlait des monstres d'Hollywood, et bien Ruby Castle n'est pas elle-même une monstre, mais elle joue dans des films de monstres et elle va commettre un acte monstrueux à un moment donné dans la série de nouvelles. Et en fait, c'est l'influence que je voulais montrer qu'elle a sur les personnes qu'elle rencontre, plus que sa vie à elle. Je voulais montrer les répercussions de qui elle est sur son entourage.
So I think in the end what the void is the imagination, and it isn't a void as such, but it has to be filled by us. What is interesting is what stimulates our imagination, what we personally react to, what we personally are inspired by. And so I think the book is playing with these kind of themes. Each character responds differently because the imagination is a unique part of us. Nobody's imagination is the same as anybody else's. And I think Ruby Castle is almost an emblem of that idea.
Alors ce vide, en fait, qui est au cœur du livre, cette absence, c'est ce que nous devons remplir après avec notre imagination. Et c'est ce qui m'a toujours intéressée, c'est cette question du mystère et de ce qui nous stimule, nous, c'est ce qui va stimuler notre imagination, ce qui va nous inspirer. Et donc chacun des personnages réagit différemment à la présence de Ruby Castle et notre imagination à nous va être stimulée par la réaction des autres personnage à Ruby Castle.
Oui, c'est l'éternel problème de l'angle d'attaque qui tourne autour du personnage et qui est le jeu permanent de cette façon, et qui est aussi le jeu permanent du lecteur, parce que le lecteur aussi va tourner aussi comme ça, donc on a doublement ça, l'auteur qui joue à ça et le lecteur.
I hope that the readers will be captivated enough by the individual stories, which again are all different. They take place in different times, some of them in the deep past, in the partly the Porte de l'Avenir, the gateway, refers back to events in the 19th century and the middle of the 20th century, and we go all the way through to the middle of this century. They're all very different stories, and I hope that readers will be patient enough to follow me on that journey.
Alors j'espère que le lecteur effectivement sera captivé par ce que je raconte, parce que je dépeins des périodes très différentes et l'influence de Ruby Castle se fait sentir sur des personnages à différentes époques, et les portes de l'avenir justement parlent de l'avenir mais également du passé, donc nous mènent vers l'avenir mais nous conduisent aussi vers le passé, et donc pour moi ça c'était cet aspect qui m'amusait beaucoup et j'espère que le lecteur me suivra là-dedans.
Oui, c'est ce qu'on on reverra un petit peu ça demain avec complications, mais c'est ça, ce passage de maintenant, demain, hier, et on ne saisit pas forcément tout de suite qu'on a changé de temps. Il faut, on a presque besoin de poser les choses pour voir les implications et les conséquences. C'est très, très complexe.
I think the key to enjoying or understanding these stories, or stories that do things with form and do things with time, is often character. We follow the stories because we become interested in the people in those stories. I find that if you want to take a reader on a journey that may be quite difficult or complex, you owe it to the reader to give them something back in return. And for me, that is character. I like to show them people and hopefully make them interested enough in those people to want to know how the stories fit together and how the threads connect.
Alors je pense qu'il est important aussi de donner des clés au lecteur pour l'aider à comprendre ce qui se passe, à comprendre les histoires et à comprendre l'évolution dans le roman. Donc moi j'ai envie de stimuler le lecteur et de lui donner surtout l'envie de continuer à lire, et pour ce faire, donc je pense que les personnages jouent un rôle essentiel et il faut lui donner des personnages qui vont susciter son intérêt, et je pense que ça c'est la clé pour susciter l'intérêt du lecteur.
Alors avant de passer aux questions, parce que le temps va très très vite, comme vous êtes tous assez passionnants, ben on ne s'ennuie pas, puis le temps s'écoule, j'aurais juste voulu pourquoi la mythologie grecque, pourquoi ce récit très précis?
You're talking about Spin.
Spin.
Yes. That story had a very ordinary genesis in a way. I went to visit my father, who now lives in Greece in the Peloponnese, and I was absolutely captivated by the landscape there, the mountainous and rather dry Mediterranean landscape, the colours especially, the smells, the olive trees. I loved that. I hadn't been to the Mediterranean for many years, so it sort of all came back. It brought back a lot of memories. I wanted to write something about that landscape, and the idea of using Greek myths which were hugely important to me as a child. I started reading abridged versions of the Greek myths probably when I was 8 years old, and I absolutely loved those stories. And the story in particular of Arachne, which forms the basis of Spin, has always been a very special story for me because of the two key elements of that story. One is spiders, and I am very interested in spiders and the world of invertebrates and little things that we find in our back gardens in general. I love them. And also the overarching theme of the myth of Arachne, which is the artist, and where does artistic inspiration come from? Is it innate? Is it God-given? Or is it something that we develop as we learn our craft? That's what the myth of Arachne is about, the responsibility of the artist to their gift. And these things came together for me very naturally, and I loved writing about them.
Alors c'est un événement très particulier en fait qui est à la base de ce livre. Il y a un petit moment, j'étais allée rendre visite à mon père qui s'est installé dans le Péloponnèse, et là j'ai découvert des paysages absolument fabuleux. Et c'est très sec, c'est une région qui est extrêmement sèche, et j'ai découvert des couleurs, des odeurs, les oliviers. Alors c'est vraiment extraordinaire. Je n'avais pas été dans ces coins-là de la Méditerranée depuis de nombreuses années, et donc j'ai redécouvert mais vraiment ces régions avec un émerveillement vraiment incroyable. Et je dois dire aussi que en même temps, quand j'étais toute petite, j'ai découvert les mythes grecs, mais je devais avoir 7 ou 8 ans quand j'ai commencé à lire des mythes grecs, et il y avait un mythe en particulier, celui d'Arachné, qui me touchait énormément, qui me captivait. Je veux dire que pour deux raisons. Tout d'abord, moi, j'ai toujours été fascinée par les araignées et tous les petits insectes qu'on trouve dans nos jardins. J'ai toujours eu une fascination pour ça. Et deuxièmement, eh bien, le mythe d'Arachné, c'est le mythe de l'artiste. Alors là, la création artistique, et ça, pour moi, c'était très parlant. Et donc, je me suis toujours demandé d'où venait, en fait, l'idée de créer, comment ça nous venait. Est-ce que c'était quelque chose qu'on avait à l'intérieur de soi? Est-ce que c'était quelque chose qui venait directement comme ça? Ou est-ce que c'était quelque chose qui venait d'en haut, de Dieu éventuellement? Ou bien si c'était quelque chose que l'on développait à force de travailler? Et donc j'ai toujours été fascinée par la création artistique et d'où ça nous venait, cette envie de créer et d'écrire, et la responsabilité de l'auteur après pour ce qui est d'écrire, de se servir de son inspiration.
Merci Nina. Écoutez, je vous dis, donc le temps est court, donc une ou deux questions. Quelqu'un a quelque chose à demander qui n'entraîne pas forcément un développement philosophique en 20 minutes, hein. Vous avez bien compris. Sinon, écoutez, la meilleure des choses...
J'ai une question à poser, en fait,
oui.
à mon voisin. J'aurais pu lui poser après, mais...
Non, c'est bon, très bien.
En t'écoutant raconter un peu l'argument de ton livre, ça m'a fait penser à quelque chose, à savoir que le moment où finalement aux États-Unis les écrans ont été envahis par des monstres qui étaient issus plutôt d'une mythologie européenne, il y a eu en littérature américaine fantastique un âge d'or avec Lovecraft, Derleth et tous ses suiveurs. Est-ce que c'est quelque chose qui... Lovecraft et tout son cortège de suiveurs, d'imitateurs et d'émules, c'est quelque chose que tu as, qui fait partie de ton imaginaire également?
Tout à fait, oui. Lovecraft, c'est un auteur que j'ai bien côtoyé également. Mais tu parlais du cinéma américain avec les mythes littéraires qui étaient recyclés. Il faut dire aussi que à l'époque, la grande majorité des cinéastes qui travaillaient à Hollywood étaient eux-mêmes des immigrés européens.
Oui, il y avait beaucoup d'Allemands.
Donc Todd Browning, à la limite, est le seul américain du lot. Mais sinon, James Wall, qui a fait Frankenstein, était anglais. Karl Freund, qui a fait La Momie, était allemand ou autrichien. Fritz Lang était allemand, etc. Donc les Américains étaient en fait assez peu nombreux. Et le cinéma fantastique de cette époque-là était avant tout... presque européen, entre guillemets.
Inspiré de thèmes européens.
Inspiré.
Et filmé à la manière, voilà, oui.
Oui.
Et joué par des Européens, parce que Bela Lugosi est hongrois, Boris Karloff est né en Angleterre.
Il y a
Alors, toujours pas de questions. Eh bien, écoutez, vous devrez aller à ce moment-là sur les stands. Voilà, vous y retrouverez Elissa de Carthage. Vous y retrouverez le Jardin de Minuit. Vous y retrouverez Hollywood Monsters, Stardust, si vous voulez bien le montrer, Stardust et Spin. Et si vous allez sur les stands au bon moment, vous savez que vous aurez aussi des dédicaces. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos quatre auteurs. Admirer la variété des cheminements de leur création. Et puis aussi remercier notre interprète. Voilà, merci beaucoup.